RFJ Info.
Le journal de Raphaël Girardin.
Bonsoir. L'attraction en pleine action. Les bénévoles de l'association Jurassienne Active dans la mise en valeur du patrimoine ferroviaire tiennent leur traditionnelle semaine estivale de travail. Reportage sur place. Le Nicaragua est proche de la guerre civile. Le pays d'Amérique centrale fait face à un vent de violence depuis plusieurs semaines. L'organisation Groupe Nicaragua basée à Delémont n'est pas épargnée par ces troubles. La Chaux-de-Fonds pourra bientôt à nouveau être traversée d'est en ouest sans encombre. Les travaux du pont du Manège sont quasiment terminés. Profitez encore du soleil. Demain, il devrait continuer de briller en début de journée. Le temps se fera néanmoins de plus en plus lourd avec des orages possibles dès l'après-midi. Les températures resteront élevées. Mais avant de passer à l'actualité, cette information, le processus de recherche d'un repreneur pour l'hôpital de Moutier se précise. Le conseil d'administration de l'hôpital du Jura Bernois indique aujourd'hui qu'il vient de donner son feu vert à une grande banque suisse spécialisée dans la transmission de sociétés pour trouver un repreneur à la filiale hôpital de Moutier sacrée récemment. Le conseil d'administration de l'AJB indique qu'il restera particulièrement vigilant aux propositions des potentiels repreneurs en termes de maintien des emplois, de projets médicaux et de coopération. Son président, Anthony Picard, précise qu'il privilégie toujours la reprise par un partenaire public, en l'occurrence le canton du Jura, sans toutefois exclure la vente à un privé. Il indique également que les contacts avec l'hôpital du Jura sont bons et empreints de franchise de part et d'autre. Une semaine de travail intensif pour la traction. L'association qui restaure et exploite des locomotives et des trains historiques mène actuellement des travaux près de son dépôt situé au Pré-Petit-Jean. Il s'agit de remplacer des traverses en bois d'un aiguillage ancien. Une dizaine de bénévoles s'activent sur le chantier. Comme l'an dernier, ils sont aidés par des personnes prises en charge par l'AJAM, l'association jurassienne d'accueil des migrants. François Comte s'est rendu sur place aujourd'hui pour assister aux travaux. Son reportage.
Emmanuel Gonia, vous êtes donc le président de l'attraction. Alors en quoi consistent ces travaux ici ?
Alors nous changeons les traverses d'un aiguillage. L'aiguillage date de 1917, mais les traverses ont déjà été changées plusieurs fois. Et puis là, il était nécessaire de renouveler ces traverses qui sont en train de pourrir. Et on en met des nouvelles à la place.
Alors c'est un chantier qui nécessite quand même de l'équipement. On voit qu'il y a un petit trax, des marteaux-piqueurs. C'est assez lourd quand même.
Oui, c'est pour ça qu'on organise ça sur une semaine de travail par nos bénévoles. Ça nous permet de louer le matériel ou l'emprunter. En termes d'outillage d'infrastructure, on est relativement peu équipé. On est très bien outillé pour tout ce qui est mécanique, entretien des véhicules, mais pour ce genre de travaux, on doit emprunter du matériel.
Pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer de traverse concrètement ?
Alors, il faut dégager tout le ballast, donc les pierres qui maintiennent la voie en place. Ensuite, on dévisse ou on décloue. Là, on a dû déclouer. C'était encore de vieux clous qui tenaient les rails sur les traverses. On enlève ces clous. On tire les traverses, on remet de nouvelles traverses en place. Ensuite, on doit percer, tirefonner, c'est-à-dire visser les rails sur les traverses. Et après, on remet le ballast et il faut bourrer. C'est ce qu'on entend maintenant, des bourreuses qui tassent les pierres sous la voie. Et c'est ça qui va régler la géométrie finale de la voie.
On va aller voir des bénévoles, si vous voulez bien.
Alexandre de Pauvert. Je suis bénévole à la traction depuis un peu plus de 12 ans.
Et ce chantier ici, il est particulièrement difficile ou compliqué ?
Ouais, au début, il faut un peu se mettre dedans. Comme ce n'est pas notre métier, on apprend un peu le métier de monteur de voie. Mais finalement, au bout de 4 jours, je suis assez content parce que ça s'est très bien déroulé. On a avancé plus vite que ce qu'on pensait.
Le marteau-piqueur juste à côté, ce n'est pas dérangeant ?
Un petit peu, mais ça fait partie du travail qu'il faut accomplir pour le changement de ces traverses.
Alors on va demander à un des requérants d'asile qui travaille ici comment ça se passe. D'abord votre nom, votre prénom.
Gurmay. Ça passe bien, c'est très bien et moi ici je suis content de travailler ici et c'est très bon.
Le marteau-piqueur c'est pas trop pénible, pas trop dur ?
Non, c'est pas trop dur, c'est bon.
Emmanuel Gonia, cet apport de personnes de la JAM, c'est important pour l'attraction ?
Pour nous c'est extrêmement précieux parce que ça nous permet vraiment d'avancer. C'est quand même 5 personnes sur une quinzaine au total qui sont présentes cette semaine, donc c'est un tiers. Je dirais que c'est presque indispensable pour une semaine de travail comme celle-ci si on veut mener à terme des chantiers de cette importance.
Le chantier lancé par la traction a démarré lundi et doit se terminer demain. Les activités du groupe Nicaragua n'ont pas été épargnées par la crise qui secoue actuellement le pays d'Amérique centrale. L'organisation basée à Delémont mène des projets de développement dans la région de la Trinidad depuis plus de 30 ans. Elle a été touchée par les troubles entre les forces du gouvernement et des manifestants. Le conflit ne cesse de s'amplifier dans le pays et le dernier bilan en date fait état de près de 300 morts et 2000 blessés depuis 3 mois. Quelles conséquences pour le groupe Nicaragua ? La réponse d'un de ses membres, Jean Parra.
On a dû arrêter les activités pendant un mois, justement parce qu'il y avait ceux que mes amis appellent les délinquants, qui les terrorisaient, qui les intimidaient, qui étaient en armes dans la rue, qui bloquaient le trafic, les marchandises ne montaient plus, vous ne pouvez pas construire des maisons si vous ne pouvez pas aller chercher du ciment pour faire des briques. Donc on a dû arrêter les activités pendant un mois et elles ont repris lundi. Lundi, pour la première fois, le comité s'est de nouveau réuni. Il fallait le faire parce que juste avant que tout soit bloqué, ils avaient acheté 4000 plants d'arbres. On a des programmes de reforestation et les plants d'arbres, ils étaient toujours là, stockés. Heureusement, ils ont été soignés. Et là, ils ont pu les distribuer cette semaine. Donc, les activités ont repris et on espère surtout que la violence s'arrête dans ce pays.
Est-ce que vous avez peur que ce que vous avez construit ces dernières années soit détruit ?
Non, absolument pas, parce qu'on travaille plutôt dans des communautés rurales, un petit peu en ville, mais assez peu. Mais surtout, on travaille dans des petites communautés rurales, on a construit des centaines, voire des milliers de latrines, on fait des maisons en ce moment, on creuse des puits, on amène de l'eau. Et dans les communautés rurales, il n'y a absolument aucun problème, il ne se passe absolument rien.
Des propos recueillis par Émilie Momentaler. La traversée d'est en ouest de la Chaux-de-Fonds va retrouver sa relative fluidité. Le chantier du pont du Manège touche à sa fin. Les rues seront rouvertes à la circulation demain soir pour une durée de 3 semaines avant une nouvelle fermeture d'une quinzaine de jours. En effet, la pose de la couche de roulement est prévue à partir du 13 août. Une dernière étape de chantier compliquée. Nicolas Monin, responsable du secteur génie civil pour la ville de la Chaux-de-Fonds.
C'est une partie délicate, dans le sens que on a la particularité donc à la ville de la Chaux-de-Fonds d'être à 1000 mètres d'altitude. Donc les revêtements en fait sont des éléments assez délicats. Et puis on a intérêt à avoir une belle qualité d'exécution. Dès qu'on a des problèmes au niveau des couches de roulement, on a des dégradations au niveau des chaussées qui interviennent très très vite.
Et qu'est-ce qui fait que cette pose elle est réussie ? Quels sont les ingrédients nécessaires pour que ce soit parfait ?
Il faut déjà qu'on puisse faire une pose à la machine avec un compactage adéquat. Donc on a tout le train de pose, comme on dit. Donc au niveau des températures des arrivées, au niveau des enrobés, les températures de pose et le compactage en fait derrière qui doit être très soigné.
Des propos recueillis par Myriam Vidvert, les travaux de pose auront lieu de nuit pour ne pas perturber la circulation des trains des CJ. La ville de la Chaux-de-Fonds, on y reste, elle informe ses visiteurs de l'existence d'une ligne de partage des eaux dans la région. Différents panneaux ont été installés au bord des routes avec l'objectif de mettre en avant ce phénomène présent sur les crêtes du Jura. Les précisions de Bettina Scheffli, professeure d'hydrologie à l'Université de Lausanne.
La ligne de partage des eaux indique dans quelle direction une goutte de pluie va s'écouler. C'est-à-dire, elle va nous indiquer si une goutte de pluie s'écoule vers une telle rivière ou vers une autre rivière. La goutte peut s'écouler directement en surface quand il pleut très fort. Ça sera surtout la pente qui est déterminante. Donc si on se trouve en haut d'une crête, typiquement, une goutte qui tombe à gauche va s'écouler vers la gauche et puis celle qui tombe à droite va s'écouler vers la droite. Par contre, une fois que la goutte s'infiltre, elle peut suivre des chemins qui ne dépendent pas uniquement de la pente, mais par exemple, elle pourra suivre des conduites dans le karst qui vont l'amener vers un point qui ne dépend pas uniquement de la pente en surface, mais des cheminements souterrains.
Bettina Scheffli au téléphone de Caroline Banvart. Un incendie est en cours à l'église du Sacré-Cœur à Plainpalais. L'effondrement de tout l'intérieur de l'édifice genevois est inéluctable selon les pompiers qui combattent encore le feu. D'après les premières informations, cet incendie dont l'origine est inconnue n'a pas fait de victimes, mais il pourrait rester quelqu'un à l'intérieur. 50 hommes du feu sont actuellement engagés sur place. Combiner la recherche scientifique de pointe avec la pratique des médias numériques, c'est l'objectif d'une action lancée aujourd'hui pour soutenir l'innovation dans les médias. Plusieurs acteurs publics et privés du secteur, ainsi que le PFL et les universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel, ont constitué un fonds doté annuellement de 650 000 francs. Il permettra de financer des projets de recherche en lien avec les défis que doivent relever les médias. Alors, est-ce la recette miracle ? Le coordinateur du programme, Mounir Krishan.
Je ne sais pas s'il existe une recette miracle, j'en doute. Cette initiative, elle a vraiment comme but de rassembler des acteurs académiques, privés, public autour de problématiques liées à l'innovation média. On est vraiment dans une démarche d'innovation ouverte. Avec l'initiative pour l'innovation dans les médias, on essaye vraiment de mélanger un maximum les genres. Persuadé qu'on va réussir à faire une meilleure innovation comme ça. Donc on va s'intéresser aux problématiques techniques liées au changement dans le numérique, par exemple. Mais on va aussi faire ça en relation avec les sciences humaines, sociales, les questions d'éthique, les questions de modèles d'affaires, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment un ensemble de thématiques et leur mélange qui seront intéressants.
À signaler que la Confédération soutient directement ce programme, mais que certains acteurs des médias comme Tamedia n'y participent pas. La police britannique pense avoir identifié les suspects de l'empoisonnement au Novichok de l'ex-agent double Sergei Skripal et de sa fille. Il s'agit de Russes, selon Scotland Yard, qui évoque une avancée majeure dans cette enquête. L'identification des suspects s'est faite grâce à des caméras de surveillance. Les enquêteurs ont ensuite comparé les images avec les dossiers de personnes étant entrées dans le pays à cette époque. Pas d'extradition pour Carles Puigdemont et les dirigeants indépendantistes catalans. Le juge espagnol chargé de l'enquête sur la tentative de sécession de la Catalogne a retiré aujourd'hui les mandats d'arrêt internationaux à leur encontre. Concrètement, l'ex-président catalan et les 5 autres dirigeants encore en fuite sont donc désormais libres de se déplacer à l'étranger sans courir le risque d'être arrêtés et extradés. Ils seraient en revanche incarcérés s'ils revenaient en Espagne où le mandat d'arrêt est toujours en cours.
RFJ, il est 18h12.
Le sport avec la loterie romande.
Le maillot jaune s'impose à l'Alpe d'Huez. Geraint Thomas a enlevé cet après-midi l'étape du Tour de France cycliste. Le Gallois a pris le meilleur sur Tom Dumoulin et Romain Bardet en lançant une attaque à 200 mètres de l'arrivée. C'est la deuxième victoire consécutive dans les Alpes du maillot jaune. Le résumé de cette 12e étape par notre confrère de RMC Sport, Jean-Marie Sarka.
L'Alpe d'Huez au programme du peloton aujourd'hui et comme souvent, Sylvain Chavanel tente sa chance d'entrée de jeu. Un pétard mouillé pour le Français puisque la première véritable échappée se forme dans l'ascension du col de la Madeleine, classée hors catégorie. Un groupe d'une vingtaine de coureurs avec notamment Zakarin, Roland, Valverde, Maïka, Navarro ou encore le maillot à pois Julien Alaphilippe prend le large. Ils ne sont plus que 11 pour aborder le col de la Croix de Fer dont Steven Krujvic qui décide de partir en solitaire. Le Néerlandais réussit un one-man show mais subit l'explication des leaders. Nibali, Quintana et Bardet attaquent chacun leur tour. À 4 km de l'arrivée, Christopher Froome prend les choses en main et accélère. Ils ne sont plus que 5 pour aborder les 3 derniers kilomètres. Romain Bardet, Geraint Thomas, Tom Dumoulin, Mikel Landa et Christopher Froome. La victoire d'étape va se jouer finalement au sprint incroyable et le plus rapide dans ces conditions se nomme évidemment Geraint Thomas qui devance Tom Dumoulin. Deuxième victoire d'étape déjà pour le maillot jaune après son succès à La Rosière. Serait lui finalement le grand favori de ce Tour 2018.
Et demain, le peloton partira du Bourdoisan pour rallier Valence. Un parcours de plus de 169 km avec une ascension de catégorie 3 et un col de catégorie 4 au programme. En tennis, il n'y a pas eu de miracle pour Conny Perrin en huitième de finale de Hackstadt. La Neuchâteloise a été battue en 2-7, 6-3, 6-3 par la Française Alizée Cornet, tête de série numéro 1. Et un peu plus tôt cet après-midi, Victoria Golubic a également connu la défaite. La Zurichoise s'est inclinée face à Eugénie Bouchard, 7-6, 7-6. La Canadienne élimine une deuxième Suissesse après avoir déjà pris la mesure de Timea Bacinski mardi.
Des orages isolés seront possibles ce soir sur les reliefs, mais rien de sûr selon Météo News. Pour le reste, en plaine, le temps sera calme et sec, et même cette nuit. Demain, le temps sera encore ensoleillé et chaud, mais peu à peu, le temps deviendra plus lourd. Les cumulus vont se développer, ils vont donner lieu à des averses et des orages localement forts en cours d'après-midi sur le Jura. Des orages qui vont déborder en plaine en fin de journée. Possible dégradation pluvio-orageuse sera active en soirée et durant la nuit prochaine. Des risques de grêle également et de fortes rafales sont annoncés par Météo News. Les températures, ceci étant, elles seront toujours chaudes et estivales. Au meilleur de la journée, elles oscilleront entre 29 et 30 degrés.